Je ne sais pas, vous vous souvenez que nous avons commencé d'étudier le livre de Ruth il y a peut-être un mois, quelques semaines. Et nous allons, on n'a pas pu finir, on a vu une partie. On n'a pas pu voir ce que signifie le caractère de Boaz. Donc nous allons voir aujourd'hui, nous allons continuer dans le livre de Ruth. Chapitre 4, je vous prie de prendre avec moi le chapitre 4 du livre de Ruth. C'est le 8e livre de l'Ancien Testament, après Juges. Ruth, chapitre 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi, un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Verset 7. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un notait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et l'ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Mahlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Mahlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. » Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans la maison semblable, Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisque la postérité l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendra ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, elle devint sa femme, elle est là vers elle. Et l'Éternel a permis à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Verset 14, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui n'a t'as point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'enfanter, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. et elles appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Hetzron. Hetzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nakshon. Nakshon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. C'est la parole de Dieu. Le livre de Ruth est nommé du nom du personnage principal, une femme moabite, membre d'un peuple descendant de Lot, mais qui, à cause de son attitude hostile envers Israël, fut exclue par Dieu de la possibilité d'entrer dans l'assemblée de son peuple. Nous voyons ça en Deutéronome 23, 3 et 4, moi je vais lire pour vous. L'Ammonite et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils l'ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Et encore, nous trouvons une référence à ce peuple moabite en Josué 24, 9. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Ça, c'était l'état de ce peuple, les Moabites. Et c'est Dieu lui-même qui a écarté ce peuple pour préserver son peuple Israël. Nous avons vu dans le verset que nous avons lu l'état de ce peuple. L'Ammonite et Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. C'était impossible que ce peuple, il soit parmi le peuple de Dieu. Il entre dans l'assemblée de Dieu. Mais ce livre montre que Dieu ne manie pas ses lois de manière légaliste, mais qu'il sait les adapter en faveur de ceux qui sont droits de cœur. Le récit se passe au temps des juges et couvre une quinzaine d'années, au moins 60 ans avant la naissance du roi David. À cette époque, d'ailleurs, un mariage avec une femme moabite était considéré comme déshonorant. Il se situe dans une époque troublée de l'histoire d'Israël, marquée par l'insécurité et la décadence religieuse et morale. Le caractère lumineux de ces personnages ressort d'autant mieux sur cet arrière-fond sombre, comme des diamants placés sur un velours noir. Le livre de Ruth montre que, même pendant ces jours sombres, Dieu avait toujours des hommes et des femmes qu'il pouvait utiliser. Nous pouvons penser à des hommes comme Noé, Élie et Malachie, mais dans les jours sombres des juges, il y avait Boaz, un homme fidèle pendant le temps de famine et préparé de Dieu pour être utilisé dans la généalogie du Messie. En fait, le livre a une place importante dans la progression continue de ce plan qui se concrétiserait. Et comme nous lisons en Galates 4:4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et nous allons voir dans ce livre quand nous allons parcourir de ce livre, ce petit livre, on peut voir la main de Dieu dans les pages de ces livres, dans presque partout. La partie de cette histoire de Ruth que nous allons voir ce matin se passe à Bethléem, lieu d'origine de David et du Messie, Jésus-Christ. Ce n'est sans doute pas un hasard que cet épisode qui a donné naissance à un ancêtre de David et la naissance du fils de David promis se soit passé dans le même cadre. Lorsque Benjamin Franklin était le premier ambassadeur des États-Unis en France, c'était en 1778 jusqu'à 85, il fréquentait occasionnellement le club de infidèles, un groupe qui passait la plupart de son temps à chercher et à lire des chefs-d'œuvre littéraires. Une fois, Franklin a lu le livre de Ruth au club, mais a changé le nom qu'il contenait afin qu'il ne soit pas reconnu comme un livre de la Bible. Quand il a terminé, les auditeurs étaient unanimes dans leur éloge. Ils ont dit que c'était l'un des plus beaux romans qu'ils n'aient jamais entendu et ont exigé qu'ils leur disent où ils avaient rencontré une œuvre d'art aussi remarquable. Il aimait leur dire que cela venait de la Bible. Parfois, les gens, ils sont prêts à écouter une histoire, mais quand on dit que ça vient de la Bible, il ne veut pas l'écouter. Et parce que cette histoire d'amour est dans la Bible, c'est plus qu'un simple roman d'amour. Romains 15, 4 dit, « Or tout ce qui était écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Paul se réfère ici à l'Ancien Testament, y compris le livre de Ruth. Cela signifie que nous serons instruits, que nous serons plus en mesure de supporter les moments difficiles et que nous serons encouragés à apprendre ensemble. Dans le processus, nous grandirons dans l'espoir. Quelles leçons allons-nous apprendre aujourd'hui? L'amour fidèle de Dieu se voit à travers des gens fidèles. Et parfois, peut-être c'est à cause de notre infidélité, les gens n'arrivent pas à reconnaître le Dieu qui est fidèle. Les quatre chapitres divisent le livre très commodément. Un commentateur de la Bible place les chapitres sous les rubriques très appropriées comme suit. Le chapitre 1, il a donné le titre comme 10 ans à Moab. Vous savez que la famille d'Elimelech, ils sont passés 10 ans dans le pays de Moab. Et le chapitre 2, on peut intituler « Une journée dans le champ de récolte et la moisson ». Le chapitre 3, « Une nuit dans l'aire d'abattage ». Vous savez, Ruth, il va aller voir Boaz. Donc, c'est une nuit dans l'aire d'abattage. Le chapitre 4, c'est seulement une heure. C'est le chapitre 4, ça passe dans une heure à la porte de la ville, ce que nous avons lu. Maintenant, on va voir qui est cet homme, Boaz. Et on ne parle pas dans le premier chapitre du tout. Dans le deuxième chapitre, on commence à parler de lui. L'histoire du livre commence avec trois hommes et trois femmes. Elimelech, Maclon et Kiljon. Naomi, Ruth et Orpa. Elimelech, le père et ses deux fils, Maclon et Kiljon, meurent dans le pays de Moab. Orpa, l'une des belles filles de Naomi, choisit de rester à Moab. Elle a de belles paroles à dire, prononcer, mais elle choisit de rester dans son pays. Naomi et Ruth retournent à Bethléem ruinées et brisées, incapables de voir au-delà de l'horizon sombre qui les attend. Boaz est introduit par l'expression, c'est le chapitre 2 de Ruth, le livre de Ruth, chapitre 2, le verset 1. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. C'est ainsi que Boaz il est introduit à nous. Un homme riche et puissant. Et c'était un homme puissant et riche. C'est la même expression utilisée par rapport à Gédéon. On lit ça dans Juges 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et par rapport à Jepté, en Juges 11, 1, Jepté, le Galatite, était un vaillant héros, mais traduit par un homme puissant et brave. Son nom signifie « en lui est la force ». Boba, ça veut dire « en lui est la force ». Il ne fait aucun doute que ce grand propriétaire de terrain de Bethléem est vu dans cette histoire de Ruth comme un homme de caractère, de courage et de conviction. Un Israélite pieux, en effet. L'événement dans le chapitre 2 sont centrés sur un champ de récolte, et nous sommes présentés à Boaz, le propriétaire du champ à Bethléem, une belle image de Dieu vivant qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons, comme dit à 1 Timothée 6, 17, afin de fournir des moyens de subsistance pour elle et Naomi. Ruth propose d'aller trouver un agriculteur dans le voisinage, dans le champ de récolte, duquel elle pourrait être autorisée à glaner. Alors que le peuple d'Israël se préparait à entrer dans la terre promise, Dieu a fourni des règles sur la façon dont le propriétaire des champs devait rassembler leurs produits. Et ce passage se trouve en Lévitique 19, je vais lire ça pour vous. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Et encore en Deutéronome 24, 18 à 22, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoureras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras la vigne, ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Donc Dieu a donné ces commandements à son peuple. Comment ils devraient se conduire dans leur commerce, dans leur business. Ils ne devraient pas être radins. Ils devraient laisser une partie pour les veuves, pour les orphelins et pour les étrangers. Vous voyez la grâce de Dieu, mais souvent on oublie que on pense que Dieu, de grâce, on trouve dans le Nouveau Testament. Mais Dieu ne change jamais. Il est le même Dieu. La loi donnait des instructions aux propriétaires des champs qu'en récoltant leur récolte, ils ne devaient pas moissonner les coins des champs afin de prévoir des dispositions pour les pauvres, les étrangers, les orphelins et les veuves. C'était pour ceux qui avaient moins de privilèges dans la société ou qui étaient tombés dans les moments difficiles, mais qui étaient prêts à faire l'effort de s'engager dans la tâche de glaner pour subsister. Apparemment, par hasard, dans le verset 3, on voit, elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur, et se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était la famille d'Elimelec. Vous savez, dans la Bible, il n'y a rien n'est par hasard. Mais parfois, on trouve le mot par hasard, mais nous devrions souvenir que Dieu fait opérer toutes choses selon sa volonté. C'est jamais par hasard. Mais pour Ruth, le Moabite, elle peut penser que c'est par hasard. Ruth se retrouva dans la partie du champ qui appartenait à Boaz. Mais ce qui a pu sembler être une occasion de bonne fortune était en réalité la souveraineté de Dieu qui est vue tout au long du livre, nous fournissant au chapitre 4 un lien vital dans la généalogie du Messie. Quand nous voyons ce climax dans le quatrième chapitre, comment ça termine? Nous pouvons émerveiller comment Dieu a conduit son peuple, comment Dieu a conduit cette femme, Naomi, Boaz. La loi de Dieu veut empêcher une propension humaine à devenir matérialiste pendant les temps abondants. Ces choses nous incitent probablement à penser à notre monde matérialiste dans lequel nous vivons aujourd'hui. Chacun pense à lui-même. C'est Dieu le créateur de tout qui fait la terre pour produire. Nous travaillons comme tout le monde. Rien ne nous appartient au sens propre. La terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Il fait pleuvoir et fait briller le soleil pour que la terre produise. Pourquoi être avide de tout garder pour soi comme si tout nous appartient? Si Dieu a été généreux avec nous, ne devons-nous pas faire preuve de la même générosité envers les autres? Mais souvent nous pensons que c'est moi qui travaille, donc j'ai le droit de dépenser pour moi et dépenser comme je veux. Mais si Dieu n'a pas donné la santé pour travailler, si Dieu n'a pas donné le travail pour travailler, vous savez, il y a millions de chômeurs en France, mais si nous avons le travail, c'est une grâce de Dieu. Mais quand nous devrions donner aux autres, ne pensons pas que c'est une grâce que nous avons de pouvoir aider quelqu'un. Et on va voir de certains caractères de Boaz. Premièrement, nous voyons que Boaz, c'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu. Par conséquent, à travers de ce passage, nous comprenons que Boaz était un homme craignant Dieu qui aimait et observait ses commandements. Nous comprenons qu'il a pratiqué la parole de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Il laissait les pauvres et les nécessiteux glaner dans ses champs. Sa relation avec ses employés reflète son caractère et sa piété. Voilà le verset 3 du chapitre 2. Le verset 3 du chapitre 2. Et voici, Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Imaginez, vous allez au travail demain et votre employeur, il le dit, que l'Éternel soit avec vous. Et vous répétez, que l'Éternel te bénisse. Ah, ce serait génial, n'est-ce pas? Mais quel employeur et quel serviteur! Une belle image, une image idéale. Deuxièmement, nous voyons que Boaz a reconnu le sort de Ruth comme étant dans le besoin. Mais il était sensible. Il était sensible aux besoins des autres. Et regardez le verset 5 de chapitre 2. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Quelle bonté, cet homme, il démontre envers un étranger. Mais je voudrais que vous imaginez dans le caractère de Boaz, si on peut trouver le caractère de Dieu, le caractère de Jésus-Christ. Hein, la bonté, il a démontré envers une étrangère. Non seulement il la permet de glaner derrière le moissonneur, il dit aussi que tu peux prendre l'eau, boire de l'eau qui se trouve ici. Et troisièmement, Boaz démontra une générosité et aussi il protège Ruth. Ruth, chapitre 2, 14 à 18, on va lire. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti. Elle mangea et rassasia et elle garda le reste, certainement pour sa belle-mère. Naomi. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Elle ne s'inquiétait pas, et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Donc, cet homme Boaz, il montre une extrême générosité envers cette femme. Il a donné ordre à ses serviteurs, il a défendu à ses serviteurs de la toucher. Donc il protège. Et quatrièmement, nous voyons que Boaz savait qu'il y avait un autre membre de la famille qui avait la responsabilité, nous avons vu dans le chapitre 4, qui avait la responsabilité de subvenir aux besoins de Ruth. Boaz s'est approché de l'autre membre de la famille et lui fait connaître la nécessité de racheter Ruth. Bien qu'il ait eu l'occasion de prendre Ruth comme épouse, il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas usurpé. Il ne considérait pas Ruth comme une proie à arracher. Mais attendez son tour. Il savait qu'il y avait une autre personne devant lui qui avait le droit de rachat. Donc il attendait son tour. Il était juste dans toutes ses actions. La gentillesse de Boaz était si accablante qu'à un moment donné, Ruth lui demandait. Alors elle tomba sur sa face. C'est le verset 10. Hein? Alors elle tomba sur sa face et se prosternant contre terre, elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Mais si vous voyez cette femme, elle avait rien. Elle avait rien. Ce n'est pas une jeune fille, c'est une veuve. Elle n'avait pas l'argent, elle n'avait pas une position dans la société. Pour le peuple de Dieu, elle était une païenne, même une moabite, une étrangère. Elle n'avait rien que Boaz a pu montrer une compassion, une générosité envers cette femme. Finalement, lorsque l'autre membre de la famille ne voulait pas le faire, Boaz est intervenu sans hésitation et a racheté Ruth. Et cinquièmement, bien que Boaz fût un homme riche et puissant, il était assez humble pour respecter une femme païenne convertie, et assez sage pour admirer son courage, son dévouement, sa gentillesse et sa fidélité à Naomi. Certes, ses caractères sont remarquables. Le caractère de Ruth. Regardez ce que Boaz dit à Ruth en verset 11 de chapitre 2. Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. » Donc Boaz, il a certainement, quand Naomi elle est rentrée, les gens de ville, ils ont parlé par rapport à Naomi et Ruth. Naomi, elle est rentrée ayant tout perdu de sa vie. Elle est partie avec son mari et ses deux fils. Et elle rentre main vide, selon sa propre parole. Elle rentre main vide avec une belle fille qui est veuve, qui est une veuve maintenant. Mais Boaz, il a entendu parler de Ruth, comment elle se conduit avec sa belle-mère et comment elle a dû quitter son peuple, son pays, pour aller vers un peuple qu'elle ne connaissait point auparavant. Excusez-moi, Boaz a pu voir le caractère profond de Ruth, ce que la plupart des hommes ne verraient pas. Et souvent, les jeunes hommes, quand ils veulent se marier, ils voient une femme, si elle est belle, des choses extérieures. Mais Boaz, est-ce qu'il a vu de cette manière? Ruth sentait que son passé, sa pauvreté et son statut d'étrangère à Bethléem la rendaient moins désirable que les autres femmes. Pourtant, Boaz l'a remarqué. Boaz a pu reconnaître Ruth avec honneur. Boaz n'a pas simplement vu Ruth, il l'a comprise et honorée. Il a reconnu que Ruth était plus que ses luttes passées. Certainement, elle a eu beaucoup de luttes, cette femme. Et elle était plus que ses luttes passées, ou même ses luttes présentes, actuelles. Il a honoré la femme qu'elle était dans son cœur et la femme qu'elle pouvait devenir avec lui. Et je pense que pour les hommes, Boaz est un modèle. Son caractère, c'est un modèle. Dieu veut que nous voyons l'union de Ruth et Boaz comme un exemple de la façon dont il nous voit. Il nous aime et rachète chacun de nous, en particulier ceux qui ont l'impression qu'ils sont tout perdus et qui se sentent moins que rien. Mais vous pouvez penser que vous n'avez pas la valeur, vous avez moins que rien, vous êtes méprisé dans la société et personne ne voit votre vraie valeur. Mais Dieu ne voit pas de la même façon. Dieu voit autrement. Vous savez, le mariage de Ruth et Boaz, c'est une belle image de mariage de Jésus-Christ avec son Église, qui est son épouse. Peut-on considérer Boaz comme un type de Christ? Premièrement, qu'est-ce que la typologie? Mais dans la Bible, vous pouvez trouver beaucoup de types de Christ. La typologie est une forme particulière de symbolisme. Un symbole est quelque chose qui représente autre chose. On peut définir un type comme un symbole prophétique en ce qu'il représente tous un événement à venir. Un type de Christ est un personnage de l'Ancien Testament, donc l'attitude ou les actes correspondent à ce que Jésus dans le Nouveau Testament ou encore un objet ou événement qui représente une qualité de Jésus. Par exemple, comme la hache de Noé est considérée comme un type de Christ. Pour le salut qui a servi pour le salut du monde. Oui, Boaz, à travers de son caractère, reflète Christ de bien des façons dans le livre de Ruth. Et un autre Une autre phrase ou une autre expression qu'on voit dans le livre de Ruth, c'est le droit de rachat. On a vu dans le quatrième chapitre plusieurs fois ce mot, le droit de rachat. Et on peut dépenser un peu de temps pour savoir qu'est-ce que c'est ce droit de rachat. Le livre de Ruth de l'Ancien Testament nous aide à mieux comprendre le sens du mot rédempteur. On utilise le mot souvent, le mot rédempteur, le droit de rachat, d'une manière plus claire, bien que ce soit dans la loi de l'alliance donnée par Dieu au peuple d'Israël. Il illustre plus clairement comment cette loi a été pratiquée ou appliquée. Bien que nous n'ayons pas d'autres exemples que dans l'histoire de Ruth, nous allons voir ce que la Bible dit. Regardez avec moi en Lévitique 25, 24 à 28, le livre de Lévitique. Lévitique 25, on va lire à partir de verset 24. Lévitique, c'est le livre de la loi, et tout ce que les enfants de Dieu, Israël devraient faire ou ne pas faire. Dieu a donné beaucoup de règles, il a donné beaucoup de lois par rapport à leur conduite. Et ici, Lévitique 25, on va lire à partir de verset 24. Dans tout le pays, donc, vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. On parle le terrain, les champs ici. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme la personne qui est le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année de jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Ça, c'est par rapport à l'achat d'un terrain et comment s'appliquer ce droit de rachat. Le passage ci-dessus parle de droit de rachat d'un terrain ou un champ. Regardons maintenant en Deutéronome 25. Deutéronome 25, le livre à côté. Ici, ça ne parle pas uniquement du terrain, mais ça parle plus. Deutéronome 25, à partir de verset 5. Lorsque des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens, elle dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, elle ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit, je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied, et ce que Boaz a fait dans le chapitre 4, il ôtera son soulier, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Pour nous, le 21e siècle, ça pourrait paraître dur et bizarre pour nous, mais le livre de Ruth, il faut placer dans le contexte, dans le coutume qui était dans le pays d'Israël. Sinon, on peut trouver des choses parfois difficiles. Dans le cas de Ruth et Naomi, cet homme était Boaz. Racheter signifie payer le prix pour quelqu'un ou quelque chose afin de le libérer de l'esclavage ou de la captivité, de la difficulté ou du danger. Dans son grand amour pour son peuple de l'Ancien Testament, Dieu avait pris des dispositions spécifiques concernant la rédemption. Si une personne ou une famille traversait des moments difficiles et devait renoncer à une terre qui leur appartenait, il devenait de la responsabilité d'un parent d'aider ses proches en achetant la terre et en leur rendant. Pour être qualifié de parent rédempteur, trois choses devaient avoir lieu. Tout d'abord, ils doivent être liés par le sang à ceux qu'ils voulaient racheter. Deuxièmement, ils devaient être capables d'en payer le prix. Vous gardez Boaz dans la tête quand nous lisons ça. Et enfin, ils devaient être prêts à racheter. Ça, c'est des trois conditions que un racheteur, quelqu'un qui veut exercer son droit de rachat, qu'il devrait avoir comme qualité. Boaz était qualifié sur les trois points. Il a poussé les choses encore un peu plus loin. Non seulement il a racheté Naomi et Ruth, mais il est également devenu le mari de Ruth. L'amour fidèle de Dieu pouvait être vu dans la fidélité de Boaz. Vous savez, pour nous, c'est peut-être difficile à comprendre. Mais les femmes, elles ne travaillaient pas. Ils n'avaient pas une... ce n'étaient pas les personnes qui amenaient l'argent à la maison. C'était les hommes. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire quand les hommes ils meurent dans la guerre ou dans les autres conditions, par une épidémie? Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire? C'est pourquoi Dieu il a pourvu le droit de rachat à cette époque. Et l'amour fidèle de Dieu pouvait être vu dans la fidélité de Boaz. Il eut un fils qu'il nommait Obed. Obed avait un fils nommé Isaïe. Et Isaïe avait un fils nommé David, qui allait devenir plus tard le roi David. Et le plus grand ancêtre de grand roi David serait Jésus-Christ. Et c'est bien sur la plus grande leçon qui se cache sous la surface du livre de Ruth. En Jésus-Christ, nous avons un plus grand ami que Ruth ne l'était pour Naomi et un plus grand rédempteur que Boaz ne l'était pour les deux. En étudiant le livre de Ruth, nous comprenons la nécessité que le Fils de Dieu vienne sous la forme humaine, dans la chair et le sang. Afin de racheter, un rédempteur doit remplir les trois conditions ci-dessus. Il doit être un parent lié par le sang, pas seulement la famille. Il devrait être vraiment lié par le sang, en ce que nous avons vu. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne partageons pas la vraie nature de Dieu. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde en prenant un corps humain. Voyez ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le désert. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu, il voulait toujours venir habiter avec son peuple. Il cherchait toujours la communion. C'est l'homme qui a rompu la communion à cause de son péché. Et Dieu, quand les enfants d'Israël erraient dans le désert, ils disaient, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais le sanctuaire, il parlait de son corps. Ça se réalisait se réalisera plus tard, quand Jésus-Christ est vraiment venu sur cette terre dans un corps humain. Nous ne pourrions jamais atteindre Dieu, et c'est pourquoi Dieu lui-même, sous forme humaine, est venu vers nous. Jésus, notre Rédempteur, est venu dans la chair, et il est la chair de notre chair et le sang de notre sang. Souvenez ce que l'apôtre Paul il dit, mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pour mourir sur la croix, Jésus, il avait besoin d'un corps humain. Il avait besoin de la chair et le sang. Mais souvent, on chante que Jésus, il a fait couler son sang. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Encore un passage en Hébreu, chapitre 2. On va lire de 14 à 18. Hébreu, chapitre 2, versets 14 à 18. La première condition, c'est tout d'abord, ils doivent être liés par le sang à ceux qu'ils voulaient racheter. Donc le Rédempteur, Jésus-Christ, il avait besoin d'être en chair et en sang, avoir un corps humain. Sinon, ce n'est pas possible. Donc Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a fait l'homme. Et quand, dans le même livre des Hébreux, c'est écrit par rapport à l'avènement de Jésus-Christ, tu as désiré ni sacrifice ni holocauste. Jésus, il demande un corps humain pour être sacrifié. Deuxièmement, il devrait être capable d'en payer le prix. Le Rédempteur, qui avait le droit de l'achat, il devrait être capable. Non seulement il peut prétendre pour racheter, mais il devrait être capable de payer le prix. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, mon Seigneur. L'homme, il a péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu ne change jamais la justice. Il ne peut pas. En 1 Pierre 1, 18 et 19, je vais lire, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Donc, il avait la capacité pour payer le prix, pour le rachat. Et Jésus-Christ, il a payé un prix très cher. Il a payé par son propre sang. Ce n'est pas par le sang de l'agneau et des bétails, mais il a payé par son sang précieux. Et dans le même épître de 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, quand il est venu dans la chair, il a dû payer le prix. Il n'y avait pas d'autre moyen de nous sauver, de nous racheter. Nous avons nous vendu dans la main du diable. Nous étions son esclave. Et Dieu nous a rachetés en payant le prix. On va encore lire en Éphésiens 2, 11 à 17, le passage qu'on connaît bien. C'est pourquoi vous, autrefois païens, comme Ruth elle était païen, un Moabite, qui ne peut jamais entrer dans l'assemblée des enfants de Dieu. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et elle vient d'un pays où il adorait des idoles, des autres dieux. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Pensez à Ruth. Elle n'avait pas le droit d'entrer dans la cité d'Israël. Privé du droit de cité d'Israël, étranger aux alliances. Elle n'était pas partie. Le peuple qui avait l'alliance avec Dieu. Avec qui Dieu l'a fait l'alliance. Privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Pensez à Ruth, après on devrait penser à nous-mêmes. Je pense que Ruth, elle signifie notre bien de notre image, l'image de chacun. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix, vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Éphésiens 2, 11 à 17. Donc, premièrement, il devrait être tout d'abord, ils doivent être liés par le sang à ceux qu'ils voulaient racheter, le Rédempteur. Deuxièmement, ils devaient être capables d'en payer le prix. Et enfin, troisièmement, ils devaient être prêts à racheter. Vous savez, nous avons vu dans le passage dans le livre de Ruth, chapitre 4, il y avait un autre qui avait le droit de rachat, mais il ne voulait pas le racheter. Il refusa, il voulait le terrain. Mais il ne voulait pas marier avec Ruth. On peut poser beaucoup de questions, mais pourquoi il ne voulait pas être marié avec Ruth? Peut-être qu'il était, je pense qu'il était déjà marié, donc il n'avait pas la capacité de remarier cette femme, de peur qu'il perde son héritage. Bien souvent, les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, bien souvent, les enfants de Dieu, ils ont peur de perdre l'héritage dans le monde. Ce qu'ils peuvent avoir dans le monde, ils refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Donc, le Rédempteur, il devrait être prêt à racheter. Et on va lire Hébreux 10, le premier 7 versets. Hébreux chapitre 10, le premier 7 versets. Hébreux 10, 7. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau de livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Donc on voit que Boaz, il voulait non seulement exercer son droit de rachat, mais il voulait aussi épouser cette femme moabite, Ruth. De la même manière, Christ, il a fait la volonté de son Père. Il a fait la volonté de Dieu. Il voulait un corps, puisqu'il peut offrir, puisqu'il peut faire la volonté de son Père, puisqu'il peut offrir ce corps, chair, os et sang sur la croix, pour notre rédemption. Donc, je vous assure qu'on ne peut pas tout voir dans ce livre. C'est tellement belle, de beaucoup d'imagerie par rapport à notre position et de notre Rédempteur, Jésus-Christ. On peut poser les questions dans toute cette histoire. Où est Dieu dans le livre de Ruth? Où est Dieu dans le livre de Ruth? Nous savons que dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois. C'est seulement deux livres qui sont nommés auprès des femmes, Ruth et Esther. Mais dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est même pas mentionné une fois. Mais nous voyons que Dieu, partout dans les coulisses de l'histoire du salut du peuple de Dieu, dans un pays étranger. Dieu, il est là. Juste parce que moi, je ne vois pas la main de Dieu, je ne peux pas renier la présence de Dieu. Dieu, il était toujours là. De la même manière, nous ne voyons pas l'intervention directe de Dieu dans le livre de Ruth. Pas de rêve ou de vision, pas des anges ou des prophètes, mais nous voyons la main de Dieu à chaque étape, alors que l'histoire se dirige vers la providence de Dieu dans l'événement de Messie, Jésus-Christ. Et je vous laisse le soin d'étudier le livre et de le trouver par vous-même, ce qui sera certainement une grande bénédiction. Pour conclure, on va lire ce chapitre 4. On va lire à partir de verset 11. Chapitre 4 du livre de Ruth. On va lire à partir de verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable, Rachel et à Léa, les femmes de Jacob, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem, puisse la postérité que l'Éternel te donna par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Je ne sais pas, vous avez remarqué, si vous savez c'est qui Tamar. Tamar, c'est une des quatre femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu. Hein, on trouve dans la généalogie ces quatre femmes. Hein. On voit Tamar, on voit Rahab, on voit Ruth et la femme de David. Hein. Ce n'est pas marqué comme femme de David, Bathsheba. Donc, Pérez, c'est dans la même lignée de Boaz. Hein, Pérez, Tamar, elle est dans la maison de Pérez qui fut enfantée Judas par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et alla vers elle. Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. On va arrêter dans ce verset parce qu'il y a un problème peut-être ici. L'Éternel permet à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Vous savez, Ruth, elle était mariée à Maclon ou dans le pays de Moab. Ruth, elle était moabite. Mais qui a empêché Ruth de concevoir? Et pourquoi Dieu l'a empêché Ruth de concevoir dans le pays de Moab? Parfois, on ne voyait pas la main de Dieu. On peut pleurer, on peut murmurer, on peut lamenter. Pourquoi? Mais nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire. Nous ne voyons pas son dessein. Et Dieu, il a fermé, Dieu l'a arrêté que Ruth se concevait par son mari Maclon. Et maintenant, c'est marqué, voilà, l'Éternel, le verset 13, deuxième partie du verset 13, l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Ce n'est pas l'Éternel qui donne l'enfant, et parfois il ne donne pas l'enfant à certaines. Vous souvenez de Rachel qui dit que donne-moi un enfant sinon je meurs. Hein? Et parfois on veut tordre la main de Dieu. On approche Dieu avec notre requête, on veut tordre la main de Dieu pour dire que non Seigneur, tu me donnes maintenant. Mais Dieu ne le donne pas pour... Et certainement, Ruth, elle a compris pourquoi. Et pourquoi Maclon, il devrait mourir au pays de Moab? Et pourquoi son frère aussi, il devrait mourir? Si Kiljon, il n'était pas mort, normalement, Kiljon devrait marier avec Maclon. N'est-ce pas? Et l'histoire, elle aurait complètement changé. La généalogie de Jésus, elle aurait complètement changé. Mais vous voyez la main de Dieu, la souveraineté de Dieu dans toutes ces choses. Dieu, il est dans chaque page de l'histoire. Et on ne devrait jamais être désespéré en pensant que Dieu, il ne connaît pas mes douleurs. Dieu ne connaît pas mes souffrances. Mais Dieu, il est là. Le verset 14, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime, l'enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Mais cette femme qui part avec son mari, je pense que peut-être elle n'a rien dit quand son mari il a pris la décision pour quitter Jérusalem, quitter Bethléem, le pain de maison, pour partir dans un pays lointain. Pays païen. Et conséquent, elle a tout perdu. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Et elle rentre la main vide. Mais avec, quand Boaz a exercé le droit de rachat sur le terrain, sur Ruth et aussi sur Naomi. Et ici, les voisines, elles disent que. Cet enfant restaurera, verset 15, cet enfant restaurera ton âme et sera soutien de ta vieillesse. Et ta belle-fille qui t'aime, l'enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Vous savez, le chiffre 7, ça signifie la plénitude. Verset 16, Naomi prit l'enfant et mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né. À Naomi. Et elles appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Hetzron, Esron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nakson, Nakson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaï, et Isaï engendra David. Donc, entre Obed et David, il y avait une période de 60 ans. Hein? Donc, Dieu est à l'œuvre. On ne devrait jamais oublier. Et le livre de Ruth, c'est une preuve que Dieu, le Dieu d'Israël, il dort jamais. Il dort jamais. Mais on peut penser parfois dans la situation difficile, où est Dieu dans toutes ces choses? Mais Dieu est là. Dieu, il est là. Il est en train d'œuvrer dans notre vie. Donc, nous devrions avoir la foi en Dieu que tout ce qu'il fait, il fait parfaitement bien. Que le nom de Dieu soit béni. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette belle histoire que tu as mis devant nous dans ce livre de Ruth, Seigneur. Mais Seigneur, le livre s'est nommé Ruth, mais en fait, cette histoire, c'est ton histoire. Comment tu as agi dans la vie des gens, même quand ils vont contre ta volonté, ils font les choses, Seigneur, mais tu es toujours là. Tu as jamais quitté cette famille. Seigneur, nous te remercions, Père, parce que tu nous as aimés le premier, même quand nous ne te connaissons pas. Comme cette femme Ruth Moabite, elle adorait les dieux païens, elle était dans un pays païen, elle ne te connaissait pas, mais tu savais déjà qu'elle sera dans la généalogie de ton fils. Quel merveilleux Dieu que nous avons. Et quel merveilleux Dieu que nous avons comme sauveur, comme rédempteur. Seigneur, aide-nous à vivre digne de ta parole, digne de notre foi, digne de ce nom que nous portons en tant que tes enfants, en tant que chrétiens. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela et pour ta seule gloire. Amen.